Primo Levi, écrivain juif italien, auteur de « Si c'est un homme », livre fameux dans lequel il raconte sa vie en camp de concentration, fut libéré d'Auschwitz par les soldats de l'armée rouge en janvier 1945. Avant de rentrer chez lui, à Turin, il s'écoula 10 mois pendant lesquels, avec d'autres prisonniers libérés, ils erreront, toujours encadrés par les soldats de l'armée rouge, en train, à travers l'Europe centrale. Un voyage qu'il racontera dans un autre livre, « La Trêve ». En 2006, 60 ans après, le réalisateur italien David Ferraro a décidé de repartir sur les traces de cette errance de Primo Levi pour regarder les écarts, les distances entre ce qu'a vu de cette partie de l'Europe l'écrivain italien et ce qu'il en est aujourd'hui. Son film s'appelle « Le voyage de Primo Levi ». David Ferraro était de passage à Marseille à l'occasion d'une avant-première au cinéma Le César. Interview.
Exactement, c'est Marco Belpoliti qui est curatore, directeur, soigneur des œuvres de Primo Levi, pure Einaudi en Italie. Et alors, il avait une connaissance très forte de Levi. Et il m'a dit qu'il avait pensé de faire un livre sur la trêve, avec la même idée. Et puis, il avait pensé, après avoir vu quelqu'un de mes documentaires de voyage, que c'était mieux de faire un film parce que il dit que les livres sont lus seulement par un millier de personnes tandis que un film est vu par tout le monde. Que je ne sais pas si c'est vrai vraiment, mais bon. Et alors il est venu avec cette idée et je pensais que c'était une bonne idée, une idée merveilleuse, mais en même temps je pensais exactement pourquoi on devait faire ce film. Et je pense que la première chose que j'ai fait, c'était de relire La Trêve, que j'avais lu quand j'étais un étudiant au lycée et que j'avais presque oublié. Comme tous les vies, comme tous les garçons italiens, on étudie les vies et après on s'oublie de les vies parce que c'est un classique, alors tu le mets dans quelques étagères mentales. Ça va que je... j'ai découvert à nouveau un grand écrivain très moderne et je me suis rendu compte que l'itinéraire c'était extraordinaire parce que pour lui c'était l'Union soviétique, mais pour nous c'est la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine encore en passant par Tchernobyl, la Roumanie, l'Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Alors c'était vraiment un tour de l'Europe, mais surtout de l'Europe qu'on ne connaît pas. L'Europe de l'Est, nous savons quelque chose de l'Ukraine parce qu'il y avait la Révolution Orange, quelque chose comme ça, mais réellement nous ne connaissons rien de ça. Alors c'était une grande curiosité de faire ce voyage aussi pour ça. Et quand j'ai pensé ça, j'ai eu la sensation qu'on devait faire un film pas seulement sur Levi, mais avec Levi. Alors c'était un film sur son histoire, mais aussi sur notre histoire, l'histoire de nous comme Européens contemporains, Européens du nouveau siècle. Et ça, c'est l'idée de base du film.
Ce trajet qu'a suivi Primo Levi à sa sortie d'Auschwitz jusqu'à Turin et que vous suivez donc dans ce film est absolument délirant, absurde. Est-ce que vous avez compris comment ce trajet avait été dessiné, par qui, quoi ? Comment ?
Ouais, il y avait des raisons pour ça et un peu de chance. Levi fut libéré dans le janvier 1945. Mais la guerre finit seulement le 8 mai de la même année. Alors il lui fallut 4 mois pour récupérer, pour tourner sain en forme. Et la guerre finit, et alors on pouvait penser de rentrer en Italie. C'était impossible de faire avant ça. Mais Lévi avait été libéré par les Russes. Et ce n'était pas facile. Il devait rentrer en Italie, qui était dans l'autre côte, de l'autre partie d'Europe. Et il fallut beaucoup de discussions entre les Russes et les Américains pour faire quoi avec ces prisonniers. Et on doit aussi penser que le système de chemin de fer en Europe après la guerre s'était détruit. Alors, il n'y avait pas de ligne directe entre Auschwitz, la Pologne et l'Italie. Et il partait tout pour aller à Odessa, sur le Mar Nero,
la mer Noire,
et prendre un bateau de là et rentrer en Italie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Même dans la trêve, il n'est très clair ce qui se passe. Quelqu'un décida à un certain point qu'il devait changer de parcours. Et il ne pouvait faire rien, parce qu'il était sur le train, et où le train allait, il devait être sur le train. Et ça, c'était réellement comme ça.
Alors, vous êtes allé sur des endroits précis, mais il y a plusieurs moments sur ce trajet où on a l'impression que vous avez filmé les premières choses qui se présentaient à vous.
Oui, parce que le livre aussi, c'est comme ça. C'était ce qui se passe avec Lévi. Il ne savait pas ce qui allait se passer de jour en jour. Et tout ce qui passe avec lui, c'est le destin qui lui envoie ça. Et on a essayé d'être ouvert à ce que le destin envoyait aussi à nous. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévisibles.
N'étaient pas à prévoir.
C'était une disposition que nous avons pour faire ça. Nous ne voulions pas faire un film qui démontrait des choses, qui avait des messages, qui disait des choses importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes dans le film, mais pas dans le sens de « on va dire quelque chose d'important ». J'aime beaucoup les moments où nous avons rencontré le fermier ukrainien. Qui a la vache là-bas. Et nous, c'est passé exactement comme ça. Nous étions en train de filmer les champs. Et il était la vache. Il vient et il dit, est-ce que ma vache va être dans la télé? Et alors on a commencé à parler avec lui. Et il nous a raconté que les champs, la vache était à lui, mais les champs c'était de la propriété commune. Alors on demande, la propriété commune, qu'est-ce que ça veut dire? En Ukraine, ça s'est changé. Quelle est la différence avec le communisme? Il ne savait exactement pas ce que dire. Et finalement, il dit, quand il y avait le communisme, je pouvais sortir la vache seulement la soirée. Et maintenant, je la peux sortir pendant la journée. Le communisme, vu de ce point de vue, c'est la vache. Et c'est exactement ça que nous essayons de chercher. Je pense que c'est que c'est dans Lévi. C'est un livre à propos des rencontres des gens, pas de grandes idées.
Lévi, pendant ce voyage, a parcouru une Europe en ruine. Et vous, 60 ans après, on a aussi l'impression, en regardant votre film, que vous avez parcouru une Europe en ruine.
Peut-être que nous avons un dangereux penchant pour les ruines. Je me rappelle nos interprètes qui étaient des jeunes gens qui un jour on voyait le goulag, un autre jour on voyait les Kolkhoz détruites, un autre jour on cherchait quelque chose, un cimetière. Au quatrième jour on disait on voudrait voir quelque chose de différent. Nous avons aussi des choses belles à montrer dans ce pays. Mais naturellement, les choses belles qu'il avait étaient le modernisme que nous connaissons très bien comme occidentaux, et ça ne nous intéressait pas. Nous cherchons les choses que nous ne connaissions pas, qui étaient surtout des ruines. C'était ce qui se passa là et qui nous avions la chance de connaître avant. Alors, je dis, il y a quelque chose de personnel sur les ruines, mais aussi c'est vrai que dans les pays de l'Est, il y a beaucoup de signes. Et on a essayé d'avoir le fil rouge des statues. On commence à voir des statues en Pologne et finalement on les voit. On voit le cimetière qui est à Budapest, en Hongrie. Et il y a toujours des statues. Et c'est quelque chose que nous avons essayé de dire. Les statues sont des signes qui nous communiquent ce qui s'est passé dans ce pays. En Biélorussie, les statues sont toujours révérées. En Hongrie, on a fait. Dans des autres pays, elles ont été détruites. En Hongrie, on a fait. Un parc à thème et on paie les tickets pour aller là-bas. Il y a toute une variété de façons de traiter les ruines.
Comment ce voyage a changé votre perception de l'Europe aujourd'hui?
Mais on est parti avec l'idée qu'on va voir ce qui est changé, parce que tout est changé là-bas. Et on est rentré avec l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas changées du tout. Et je ne dis seulement qu'il y a de la nostalgie du communisme qui est très forte dans beaucoup de situations, mais il y a quelque chose dans cette région, toutes les régions là-bas, qui est ex-soviétique, qui remonte à un autre siècle, à Tolstoï. Il y a quelque chose d'archaïque. Qui est complètement disparu dans l'Occident. Et la chose intéressante, c'est que ce n'est pas exotique dans ce sens. C'est quelque chose qui nous appartient comme Européens. C'est l'Europe. Il y a quelque chose qui appartient à nous. Et c'est comment faire un voyage géographique, mais aussi un voyage dans le temps. Et alors, ça, c'est la situation, je pense. C'est incroyable découvrir combien de choses n'ont pas changé.
Au début de l'entretien, vous disiez que Primo Levi était un écrivain moderne. Qu'est-ce qui fait la modernité de Primo Levi pour vous?
Même s'il est mort il y a 20 ans, il a écrit beaucoup de choses sur les conditions de la vie contemporaine. Et je vais vous donner un exemple. C'est une fois dans une interview, un journaliste lui a demandé s'il croyait encore en quelque chose, et lui répondait qu'il croyait à la démocratie. Et le journaliste était tout pris de sa réponse et disait « c'est une religion, c'est une foi ». Et Levi l'a regardé et l'a dit « non, c'est une technique ». Levi était une chimiste, juste chimiste. Levi était un chimiste, il utilisait la raison comme une. Il aimait la science. Il disait à un certain point qu'il étudia la chimie parce que, contrairement à l'histoire et à la littérature, la chimie ne dit pas des mensonges. La chimie doit marcher avec les éléments. Exactement pour ça, il observe la réalité humaine pas en partant d'une idéologie ou en voulant démontrer qu'il a raison, mais il voit la complication, la complexité, mais dans le même temps, la précision des choses. Alors, c'est la démocratie, c'est une technique, c'est stupide, c'est idiote de faire des guerres pour la démocratie comme est en train de faire maintenant. La démocratie, c'est seulement un système pour vivre ensemble mieux. Ce n'est pas une religion pour laquelle on peut tuer. Autrement, on est sur le même niveau des gens qui tuent pour la religion et qui nous semblent des ennemis. On fait exactement la même chose.
C'était David Ferrario. Son film Le Voyage de Primo Levi est à l'affiche du cinéma Le César depuis le 12 mars.